comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Focus.
Voilà que la France se retrouve quelque part entre Haïti et le Zimbabwe. Géographiquement, c'est un peu tiré par les cheveux, mais au niveau de la violence, de la répression, des manifestations, c'est l'avis de l'ONU et de sa haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, qui le 6 mars a réclamé à la France une enquête approfondie sur les violences policières qui se sont produites pendant les manifestations des Gilets jaunes. Ça branle dans le manche. De son côté, le Parlement européen a adopté le 14 février, et à une très large majorité, une résolution sur le droit de manifester pacifiquement et l'usage proportionné de la force. Et c'est bien la répression du mouvement des Gilets jaunes qui était au centre des débats. Alors on part retrouver l'avocat Raphaël Kempf à Paris, quelque part entre Haïti et le Zimbabwe. Raphaël Kempf, vous êtes avocat et vous défendez des Gilets jaunes qui passent souvent en comparution immédiate. Le samedi, manifestation, et après, le coup près tombe. Hein. C'est comme ça que ça se passe.
Oui, voilà, depuis 3 mois, on est habitué à ce que tous les lundis et tous les mardis, il y ait des dossiers spéciaux, voire des chambres spéciales à Paris, chargées de juger les manifestants arrêtés pendant le week-end.
Le jugement est tombé pour Benjamin Pérez. Il écope finalement de 6 mois de prison avec sursis, d'une interdiction de centre-ville les week-ends pendant 6 mois et de 5 années de mise à l'épreuve.
Voilà. Ça veut dire, en gros, je peux prendre du ferme à tout moment de ma vie si je fais quelque chose, même si c'est même pas ma faute, quoi. Donc c'est ce qui me fait peur.
Je défends des gilets jaunes qui me le demandent. Alors à la fois des gilets jaunes d'une part qui sont placés en garde à vue, arrêtés avant, pendant ou après la manifestation, mais également des gilets jaunes qui viennent nous voir quelques jours après les manifestations parce que ils ont été victimes de graves violences policières. Et ce que nous constatons depuis le début de ce mouvement, c'est effectivement, alors sur le plan des violences policières, un usage disproportionné de la force qui nous apparaît donc pour cette raison même illégale. Et sur le plan judiciaire, nous observons une mise en branle de manière industrielle de l'appareil policier-judiciaire dans le but de placer en garde à vue des manifestants pour les empêcher de manifester. C'est ce que nous observons depuis le début, avec une réponse ensuite des tribunaux et des procureurs de la République, qui est une réponse qui se veut ferme et qui se veut à l'unisson d'injonctions gouvernementales s'agissant de ce qui va être mis en œuvre par les procureurs de la République et notamment à Paris.
Alors le Canard Enchaîné avait dévoilé une directive, hein, c'est ça?
Le Canard Enchaîné, 30 janvier 2019. Les incroyables consignes du parquet sur les gilets jaunes. Que faire des gilets jaunes interpellés? Un courriel que le Canard a consulté, adressé par leur hiérarchie aux magistrats du parquet de Paris, donne des consignes. Une vision édifiante de la défense des libertés.
Directive très étonnante. Il s'agissait apparemment d'une note interne, d'une note technique, soi-disant, de Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris, qui a été récemment nommé, hein, et qu'on ne peut pas considérer comme étant un magistrat indépendant, donc qui gère un parquet important avec plusieurs dizaines de magistrats, a donné des consignes à ses subordonnés.
Même si les policiers pincent quelqu'un par erreur, il faut, précise froidement le courriel, de préférence maintenir l'inscription au fichier TAJ, pour traitement des antécédents judiciaires, même lorsque les faits ne sont pas constitués.
Alors lui, il s'en défend, il dit non, mais ce ne sont que des conseils techniques. Non, non, ce sont des ordres et des consignes donnés à ses subordonnés, par lesquels il leur demande...
Mieux encore, les magistrats sont priés, toujours cette prudence...
...de maintenir en garde à vue jusqu'au samedi soir ou au dimanche matin des gilets jaunes qui seraient interpellés avant ou pendant les manifestations...
...de ne lever les gardes à vue que le samedi soir ou le dimanche matin, afin d'éviter que les intéressés grossissent à nouveau les rangs des fauteurs de troubles.
Et continuer à les priver de liberté dans le but de les empêcher, je cite, de rejoindre les fauteurs de troubles. Donc déjà, c'est un peu étonnant de voir qu'un magistrat assimile des manifestants par principe à des fauteurs de troubles. Donc premier motif d'étonnement. Deuxième motif d'étonnement, c'est le fait que dans cette note soi-disant technique, qui en fait est extrêmement politique, le procureur de la République dit à ses subordonnés de continuer de maintenir en garde à vue, de maintenir les privations de liberté, alors même qu'il n'y a rien dans les dossiers contre ces personnes. C'est-à-dire qu'en gros, on a un magistrat, un des plus hauts magistrats du pays, sur le plan au niveau du parquet, qui vient dire, alors même qu'on n'a rien contre des personnes, alors même qu'on ne peut pas caractériser à leur encontre des infractions au sens du code pénal, il faut continuer à les priver de liberté pour qu'ils n'aillent pas manifester. Donc oui, c'est quelque chose qui nous apparaît extrêmement choquant et totalement inédit.
Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les violences urbaines et les face-à-face avec les forces de l'ordre se soldent par des condamnations allant du simple rappel à la loi de la prison ferme jusqu'à 2 années de prison pour la plus lourde peine prononcée contre un gilet jaune dans la région.
Raphaël Kemp, vous êtes allé à Genève il y a quelques jours, et c'était pas pour faire de l'optimisation fiscale hein, pour les gilets jaunes, mais c'était justement pour rencontrer le rapporteur spécial des Nations Unies à Genève.
Oui, en fait, depuis le début du mouvement des gilets jaunes, avec des confrères de toute la France, on a fait à peu près le même constat que je viens de décrire. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors, au début, effectivement, on avait déposé un certain nombre de plaintes auprès de l'IGPN, enfin la police des polices, sur les violences policières, auprès de différents procureurs de la République dans toute la France. On contestait également, par ailleurs, comme je vous l'ai dit, les procédures judiciaires. On a été particulièrement choqués de voir un certain nombre de sanctions extrêmement lourdes, notamment avec des interdictions de se rendre à Paris, qui étaient prononcées à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Paris, empêchant de fait à un grand nombre de manifestants qui, pour beaucoup, dans la sociologie des Gilets jaunes, ce sont des gens qui ne sont pas de Paris, qui montent à Paris pour manifester. Et les décisions prises par les tribunaux de les interdire de se rendre à Paris pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, étaient des décisions qui avaient pour effet de les priver de leur liberté de manifester. Donc une fois qu'on voit ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait avoir une espèce de tiers, d'arbitre indépendant, qui soit, indépendant de la conjoncture politique française et qui puisse regarder ça d'un peu plus haut et avec un peu plus d'objectivité. On s'est dit, voilà, pourquoi pas l'ONU? Et effectivement, au sein de l'ONU, il y a un système de protection des droits de l'homme qui examine un certain nombre de cas de violation des droits de l'homme dans le monde entier et sur différents aspects. Et donc, il y a un rapporteur spécial qui est indépendant de l'ONU, travaille à Genève, et qui, lui, est spécialiste de la liberté de manifester. C'est-à-dire qu'il va examiner dans différents pays à quel moment est-ce que les pays, les États respectent ou pas le droit de manifestation des citoyens. Et donc, on s'est dit, on va réunir un certain nombre de cas, une trentaine au total de toute la France, qui montre comment la France, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, a violé ou restreint la liberté de manifester de certains de nos concitoyens. Il y a des cas de violence policière, mais il y a aussi tout un nombre de cas d'interpellations abusives, par exemple des street medics arrêtés avec tout leur matériel médical avant les manifestations, alors qu'ils s'y rendent et que, évidemment, un street medic, c'est pas quelqu'un qui risque de commettre des violences ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je pense qu'il est à peu près impossible de déterminer, avant que quelqu'un commette des violences, son intention d'en commettre. Sauf s'il l'a dit expressément, et laissez-moi vous dire que c'est rarissime. Donc voilà, vu que la France essaye de voir ce qu'il y a dans la tête des citoyens, voir ce qu'il y a dans la tête des manifestants, et d'essayer de deviner, par un exercice un peu divinatoire, ce que ces personnes pourraient avoir l'intention de commettre des délits, alors qu'elles n'en ont pas encore commis, on s'est dit, à un moment donné, là, on est tellement dans la politique et le droit fiction qu'il fallait en référer à une instance supérieure. Donc nous présentons, nous adressons au tout début du mois de février tous ces dossiers à l'ONU, et quelques jours après, nous sommes reçus à Genève par le rapporteur spécial sur le droit de manifester et par un certain nombre de personnes du staff des droits de l'homme à l'ONU à Genève. Et donc on leur a tout raconté, c'est-à-dire à la fois les violences, à la fois les gardes à vue, à la fois aussi le projet de loi dit anti-casseurs, qui risque de restreindre encore plus au droit de manifester. Et c'est vrai que 2 jours après notre séjour à Genève, il y a eu un communiqué de presse de plusieurs rapporteurs spéciaux indépendants de l'ONU qui avaient alerté spécifiquement sur la situation en France, en disant qu'ils étaient un peu inquiets en termes diplomatiques, c'est pas rien, de ce que la France ne respecte pas le droit de manifester de ses citoyens. Voilà, donc ça c'était il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Et cette semaine, Michel Bachelet, donc qui est haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, a présenté, disons, une espèce de rapport qui faisait état de ses préoccupations en matière de respect des droits de l'homme dans le monde entier. Et elle a abordé la situation d'un certain nombre de pays.
In France, the gilets jaunes.
Dont la France.
In France.
En France, les Gilets jaunes protestent contre ce qu'ils considèrent comme une exclusion des droits économiques et de la participation aux affaires publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours, et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force.
La France n'est pas le seul pays prospère à être mise à l'index par Michel Bachelet. Non, il faut peut-être lire les choses jusqu'au bout si on est un peu sérieux, et on verra que Michel Bachelet a par exemple dénoncé la manière dont les États-Unis traitent les migrants. Et donc dans ce rapport, dans cette liste, elle prononce quelques mots sur la France quelques mots qui sont à mon avis très pertinents. Elle reconnaît qu'il y a un mouvement social qui porte en lui la question de l'inégalité, donc c'est déjà un constat qui est important. Et elle demande une enquête sur l'usage excessif de la force. Donc c'est la traduction en français de l'expression anglaise. En français, on dirait plutôt l'usage disproportionné de la force, qui est une espèce d'euphémisme pour parler des violences policières.
Bonjour, monsieur Castaner !
Pourquoi vous autorisez les tirs de flashball ? Enfin, les policiers avoir des flashballs ?
Bah, d'abord, c'est une arme de protection. Et c'est dans certaines circonstances exceptionnelles, ce qu'on appelle des émeutes, où les policiers, vous avez déjà vu ces images, hein, on leur jette des choses dessus, des barres de fer, des cocktails Molotov, toute une série de choses. À un moment de là, ils peuvent répliquer pour dire aux gens, d'ailleurs c'est annoncé à haute voix, on leur dit « poussez-vous », la formule c'est pas celle-ci, mais je vous la fais en version simple, « ne restez pas là, c'est dangereux ». Et s'ils ne bougent pas, pour se protéger, ils ont ces armes qu'on appelle des armes intermédiaires.
Faites attention les oreilles. Pour viser, pour toucher, ouais. Hein, en plein dans le thorax. Hein.
Oh, ouais, thorax, ouais.
Donc, demander une enquête sur l'usage disproportionné de la force, c'est déjà première chose constatée. Il y a des éléments qui me laissent penser qu'il y a des violences policières. C'est-à-dire que face à ça, l'ONU reconnaît un état de fait, un constat. Donc ça, c'est déjà un point fondamental. Demander à ce qu'il y ait une enquête, c'est aussi constater que les enquêtes qui sont menées ne le sont peut-être pas avec toute la diligence, toute la célérité, tout le sérieux qu'on peut en attendre. Je pense que derrière cette déclaration de Michel Bachelet, il y a aussi implicitement cette espèce de critique. Et je pense que c'est fondamental parce que le gouvernement a répondu en disant « Non mais attendez, vous nous associez au Venezuela et au Zimbabwe, ça n'a strictement aucun sens. » Non, non, elle fait son job. Son job, c'est de constater où est-ce qu'il y a des violations des droits humains dans le monde. Et elle aborde différentes situations et elle en parle. Alors, je vais peut-être au-delà de ce qu'elle pense, mais en tout cas, moi je m'étonne, à titre personnel et mes confrères également, de ce que les gilets jaunes puissent être arrêtés, placés en garde à vue, déférés, jugés en comparution immédiate, parfois envoyés en prison, tout ça de manière extrêmement rapide, c'est-à-dire parfois en moins de 48 heures. Quand on accuse un gilet jaune d'avoir jeté un caillou sur un policier, il suffit d'un policier non identifié pour écrire sur une fiche qui ressemble à un QCM que celui-ci a commis des violences. Quand je dis QCM, c'est pas une blague, hein. C'est-à-dire que les fiches d'interpellation sont des documents dans lesquels il y a des cases qu'on peut cocher en notant l'infraction qui est soi-disant commise. Donc il suffit d'un policier qui remplisse cette fiche pour qu'une personne aille en prison en moins de 48 heures. S'agissant d'un policier qui fait un usage, illégal de son lanceur de balles de défense et une personne qui perd son œil, ça prend bizarrement beaucoup plus de temps. Alors moi je demande pas que les choses soient claires, hein. Je défends pas la prison, même pour mes adversaires politiques. Mais on peut s'étonner de ce traitement à deux vitesses qui est fait en ce qui concerne d'une part les violences policières et d'autre part les violences imputables ou imputées aux manifestants.
On est combien ici dans le rond-point en temps normal ?
Une trentaine.
Une bonne trentaine. Le jour où on a reconstruit de la baraque là, juste la baraque là, c'était jaune.
Ouais.
Que des gilets jaunes du genre en jaune. C'est beau, hein. Ah ouais. On avait la rage.
Un feu pour faire voler toutes les douleurs du passé, des braises pour les ferrons, des chevaux, des grands-parents. Un feu pour les paysans sur l'autoroute de la banqueroute. Un feu même sous la pluie, ça va reprendre, sans aucun doute. Du souffle sur les brindilles pour que ça brûle les escadrilles. Un feu sous les étoiles pour voir nos yeux qui brillent. Des flammes sur les cartons remplis de lettres pas ouvertes. Un feu au président qui s'arme jusqu'aux dents. Un souffle sur les bougies d'un résistant qui est parti. Un feu qui rassemble tous les vieux, les grisonnants. Descendre pour les ados qui se sont tenus chauds. Un feu pour les amants pour qu'ils s'aiment encore longtemps. Un feu, un grand feu. Mitraillage, pilonnage, brûlage, aigreur, ampoule, cloque, tison, inflammation, irritation, insolation, ulcération, rougeur et feu follet. Ardent, brûlant, embrasé, embrassé, passionné, exalté, bouillonnant, flamboyant, incandescent, lumineux, amoureux. Un feu, un grand feu. Salut du cœur et du vivant. Te dis viens, qui lui sans peine, réchauffe tes mains d'où que tu viennes.
C'était Comme un bruit qui court. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez vous abonner au podcast et retrouver toutes les informations sur le site franceinter.fr et nous on se retrouve samedi prochain à 16h.